Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Dans cette édition, la campagne électorale pour la présidentielle américaine du 3 novembre, le candidat démocrate Joe Biden est accusé de rester chez lui à moins de 2 semaines du scrutin, alors que le président sortant, le républicain Donald Trump, continue de sillonner l'Amérique. Tout ce que fait Biden, c'est rester chez lui à railler M. Trump sur scène à Erie, en Pennsylvanie. Biden a pris 5 jours de pause, a affirmé le président américain devant ses partisans, tout en qualifiant son adversaire de politicien corrompu. Dans moins de 5 minutes, une page spéciale sur la campagne présidentielle américaine, ce sera avec Jean-Roger Bion et John Lyndon. En Guinée, le principal parti d'opposition a dénoncé mardi ce qu'il a appelé une fraude à grande échelle visant à le priver de la victoire à la présidentielle du 18 octobre, alors que les grandes organisations régionales africaines ont jugé le scrutin régulier. La Commission électorale nationale a annoncé dans la soirée de premiers résultats dans 4 circonscriptions sur les 38 du pays, dont 3 à Conakry et sa périphérie. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara. En Côte d'Ivoire, des affrontements ont eu lieu mardi entre des inconnus et des étudiants du puissant syndicat FESSI, proche de l'opposition, puis entre les étudiants et les forces de l'ordre, faisant 2 blessés. À moins de 15 jours de la présidentielle du 31 octobre, a constaté un journaliste de l'AFP. En seconde partie de cette édition, une interview avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire sur, entre autres, le scrutin du 31 octobre. Au Nigeria, la répression des forces de l'ordre sur plus de 1000 manifestants qui s'étaient rassemblés pacifiquement à Lagos, la capitale économique, a fait plusieurs morts selon Amnesty International et de nombreux blessés par balles selon des témoignages recueillis sur place, alors que le mouvement a été initié pour dénoncer les violences policières avant de s'étendre à des contestations contre le pouvoir. Nous reviendrons également sur la situation au Nigeria dans quelques instants avec Michel Joseph. En République démocratique du Congo, une attaque revendiquée par l'organisation État islamique et menée par les ADF, des rebelles musulmans ougandais installés dans la région depuis 1995, mardi, contre une prison à Beni dans l'est du pays, a entraîné l'évasion de plusieurs centaines de détenus dans une région traumatisée par des massacres de civils depuis 6 ans. Eddy Issango en discutera en seconde partie de cette édition avec notre confrère Nikèze Kibel-Beloka, éditeur du journal Les Coulisses. Au Burundi, l'ex-président Pierre Buyoya, actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a été condamné lundi par contumace à la prison à perpétuité pour l'assassinat du premier président Hutu démocratiquement élu, Melchior Ndadaye, en 1993, selon la décision reçue mardi par l'AFP. Ce texte ne comporte que le dispositif « déclaration de culpabilité et peine » de la décision de la Cour suprême et ne précise pas le rôle attribué à M. Buyoya et à ses co-accusés dans l'assassinat de M. Ndadaye, ni les éléments de preuve à l'appui de leur condamnation. Le nom de Pierre Buyoya avait déjà été cité en lien avec cet assassinat sans que le début d'une preuve ne soit apporté. En France, le président Emmanuel Macron a promis mardi d'intensifier les actions du gouvernement contre l'islam radical après l'attentat de vendredi contre Samuel Paty, un professeur décapité pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mohammed. L'enquête ouverte à la suite de ce crime s'intéresse à des messages échangés entre l'assaillant et un parent d'élève. Israël et les Émirats arabes unis ont décidé mardi d'exempter leurs ressortissants de visa, une mesure inédite entre un pays arabe et l'État hébreu. La suite de nos informations, tout d'abord, la présidentielle américaine du 3 novembre. La campagne électorale aux États-Unis, le président Donald Trump enchaîne les déplacements à un rythme effréné. Le démocrate Joe Biden ne bouge pas. À 2 semaines de la présidentielle, les deux candidats optent plus que jamais pour des stratégies radicalement différentes, Jean-Roger Bion.
Après 2 meetings de campagne lundi dans l'Arizona, le président Trump a récidivé mardi en Pennsylvanie. Interrogé sur l'accumulation de sondages défavorables, le chef de l'exécutif américain a affiché sa confiance, mettant en avant sa capacité à mobiliser d'importantes foules lorsqu'il se déplace à travers le pays. On n'a jamais vu de meeting de campagne avec un amour pareil et des foules pareilles attonner M. Trump, qui devrait bientôt retrouver la Floride où les opérations de vote anticipées ont débuté lundi. Contre-temps pour la campagne républicaine, la première dame Melania Trump a annulé en raison d'une toux persistante son déplacement en Pennsylvanie, qui devait être sa première apparition dans un meeting de campagne depuis plus d'un an. Selon sa porte-parole, Stephanie Grisham, cette annulation a été décidée par excès de précaution. Pour la deuxième journée consécutive, M. Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama et favori des sondages, n'a eu, lui, aucun événement public à son agenda. Son équipe de campagne assurant qu'il a plutôt en ligne de mire le débat jugé décisif avec Donald Trump demain jeudi à Nashville dans le Tennessee. Ce dernier face-à-face entre les deux candidats s'annonce tendu après un premier débat particulièrement chaotique. Pour éviter la cacophonie de leur premier affrontement, les micros des deux candidats seront coupés lorsqu'ils n'auront pas la parole. Pour le reste, quelques 30 millions d'Américains à travers le pays ont déjà voté par courrier ou en personne, ce qui pourrait représenter près d'un cinquième de la participation total, selon l'Université de Floride.
Les entreprises de médias sociaux modifient leur politique en matière d'expression en ligne. Cela les aidera-t-il à éviter de nouvelles lois? Tentative de réponse dans ce reportage de Michel Quinn, récit de John Linden.
Donald Trump, le président des États-Unis, est très actif sur Twitter. Mais ces dernières semaines, Twitter a placé des avertissements sur certains de ses tweets, tels que celui sur le coronavirus et le vote par courrier. Team Trump, le compte Twitter de la campagne de Trump, a également été temporairement empêché de tweeter un article sur le fils de son adversaire démocrate, Joe Biden. Certains ont salué les actions de Twitter visant à réduire la propagation de la désinformation. D'autres ont critiqué les décisions comme étant biaisées, réduisant le discours conservateur d'une manière qui pourrait affecter le résultat des élections américaines. Ce n'est pas seulement Twitter. Facebook a également limité la capacité de Trump à partager l'histoire du fils de Biden. D'autres sites ont pris des mesures fortes et similaires. YouTube, propriété de Google, a déclaré qu'il interdisait le contenu associé à QAnon, que la société appelle le contenu de la théorie du complot utilisé pour justifier la violence dans le monde réel. Pourquoi les entreprises agissent-elles maintenant? Lisa Kaplan, PDG à l'ETA Group.
Au sujet des prochaines élections, comme l'a dit un collègue, c'est un peu comme la désinformation du Super Bowl. C'est que tous les yeux y sont rivés. Nous attendons que cela se produise. Nous prévoyons que cela va arriver. C'est un grand événement.
Il n'y a pas si longtemps, les sociétés Internet laissaient leurs utilisateurs parler sans trop d'interférences. Après les élections américaines de 2016, elles ont été critiquées pour ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour mettre fin à la désinformation sur leurs services, notamment en laissant des réseaux parrainés à l'étranger mener des campagnes d'influence en ligne. Au cours de l'année écoulée et de plus en plus ces dernières semaines, Twitter, Facebook, Google et d'autres ont resserré les règles y appliquer leur politique. Anne Ravel, ancienne présidente de commission électorale.
Je pense qu'ils doivent accepter d'être ceux qui traitent ces problèmes et ne pas être les catalyseurs comme ils l'étaient auparavant.
Certains républicains disent que les nouvelles règles sont injustement appliquées, étouffant les voix conservatrices. Les sénateurs républicains ont appelé les PDG de Twitter et de Facebook à témoigner de leur politique. Les législateurs des deux partis envisagent de modifier les lois qui stipulent actuellement que les entreprises ne sont pas responsables du discours que d'autres personnes publient sur leur site. Enlever cette protection et les entreprises seront détruites, a déclaré Ken Paulson, directeur du Free Speech Center de la Middle Tennessee University. Sauf si vous voulez vraiment tuer Facebook et Twitter, il n'y a pas de juste milieu ici. Vous avez soit un très petit service ou vous allez devoir courir le risque d'avoir un contenu dérangeant, déroutant et qui désinforme les gens. Il y a vraiment deux choix. Le Congrès ne peut pas faire grand-chose à ce sujet. Sauf essayer de détruire Twitter et Facebook. À l'approche du jour du scrutin, les enjeux sont importants pour les entreprises d'Internet et pour le public américain.
Dans le reste de l'actualité, en Guinée, la mission d'observation de l'Union africaine recommande aux partis politiques de faire preuve d'esprit démocratique et républicain en respectant les résultats officiels. Mardi soir, la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats de 4 circonscriptions. Le président sortant Alpha Condé occupe la tête, suivi de son principal opposant Seydou Dalein Diallo, selon la CENI. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée.
3 communes de la capitale, Kaloum, Matam et Matoto, et Bofa, situées à 135 km de Conakry, sont remportées par le président Alpha Condé, selon les résultats provisoires partiels donnés par la Commission électorale nationale indépendante. En attendant les résultats des 34 autres circonscriptions, les Guinéens retiennent leur souffle 48 heures après la déclaration de l'opposant Seydou Dalein Diallo annonçant sa victoire à l'élection présidentielle. Un scrutin qui a enregistré la présence en Guinée des observateurs africains. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a demandé mardi à Conakry aux partis politiques de préserver le climat de paix et d'éviter tout discours incendiaire. Augustin Matata, chef de la mission, recommande.
Recommandation à l'endroit de la CENI. Renforcer les capacités du personnel électoral. Afficher systématiquement les listes des électeurs devant les bureaux de vote. Et enfin, doter le pays d'un fichier électoral viable. Recommandation aux partis politiques et acteurs politiques. Préserver le climat actuel de paix dans un esprit de conciliation en évitant tout discours incendiaire ou acte de défiance. Faire preuve de l'esprit démocratique et républicain en respectant les résultats officiels proclamés par les autorités compétentes et faire recours aux voies légales en cas de contestation éventuelle de ceci.
Dans la journée du mardi, la Cour constitutionnelle guinéenne a ordonné à la CENI de remettre une photocopie lisible du procès-verbal de dépouillement des résultats du scrutin présidentiel aux représentants des candidats. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Nigeria, plus de 1000 manifestants rassemblés pacifiquement sur un péage à Lagos ont été dispersés mardi soir par des tirs après l'entrée en vigueur d'un couvre-feu total pour tenter d'éteindre un mouvement populaire qui ne cesse de s'étendre à travers le pays. Le point avec Michel Joseph.
Lorsque le couvre-feu est officiellement entré en vigueur à Lagos à 16h locale, un millier de manifestants étaient encore assis sur le péage qu'ils occupent depuis plus d'une semaine. Les manifestations pacifiques ont dégénéré en un monstre, a déclaré le gouverneur de l'état de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, avant l'annonce d'un couvre-feu total de 24 heures. L'inspecteur général de la police a ordonné le déploiement immédiat de la police anti-émeute dans tout le pays et il y a eu de nombreux blessés. De graves échauffourées ont eu lieu également à Abuja, où des dizaines de véhicules et de bâtiments ont été incendiés. À Benin City, la capitale de l'état d'Edo, dans le sud, 3 postes de police ont été pris d'assaut et plusieurs prisonniers ont réussi à s'échapper. Dans le nord, à Kano, des centaines de jeunes ont pris d'assaut les rues en brûlant des voitures et des commerces. Le président Muhammadu Buhari, qui avait pourtant annoncé une réforme de la police, s'est depuis enfermé dans le plus grand silence.
Les autorités américaines ont déclenché mardi des poursuites contre Google pour abus de position dominante. C'est la plus importante action judiciaire depuis près de 20 ans contre l'un des piliers technologiques modernes, préfigurant de possibles actions en justice contre d'autres géants de la tech comme Apple, Facebook et Amazon. Précision de John Linden.
Le ministère de la Justice et 11 États américains accusent Google de forcer les consommateurs et les annonceurs à utiliser son moteur de recherche sur les appareils mobiles sous Android, son système d'exploitation, via des applications qu'il est impossible d'effacer, ce qui restreint considérablement la concurrence. La plainte, déposée auprès d'un tribunal fédéral de Washington, appelle à des changements structurels chez Google et laisse envisager un possible démantèlement de certains pans du géant de la recherche en ligne. Google a qualifié cette plainte de douteuse. Les gens utilisent Google par choix et non parce qu'ils sont forcés ou parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'alternative, s'est défendu Ken Walter, un vice-président du groupe, rappelant que ses services sont gratuits et profitent donc au plus grand nombre. Google, comme ses voisins de la Silicon Valley, Apple et Facebook, et Amazon et Microsoft de Seattle, suscitent depuis 2 ans des réactions quasi allergiques chez beaucoup d'élus américains. Les conservateurs les accusent de partialité et les progressistes s'inquiètent des atteintes aux droits de la concurrence, leur emprise sur les données personnelles et le renforcement des inégalités liées à leur ascension. Les 5 sociétés valent plus de 7 000 milliards de dollars en bourse, contre quelques 2 000 milliards il y a seulement 5 ans.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe de la Confédération. Le Final Four choisi par la CAF pour terminer la compétition a désigné ses finalistes au Maroc. Le club égyptien de Pyramide FC et celui marocain du Hassania Agadir. Hier, Pyramide a battu les Guinéens du Oruya AC 2-0. Lundi, dans la première demi-finale, la Renaissance sportive de Berkane a battu l'autre club marocain Hassania Agadir 2-1 à Casablanca. Mohamed Aziz a ouvert le score pour les Berkaniers à la 20e minute sur pénalty avant qu'Imad Kimawi n'égalise à la 30e. C'est finalement à la 60e encore sur pénalty qu'Imad Kimawi a donné un avantage définitif à Berkane qui se projette ainsi en finale. La finale aura lieu ce 25 octobre au stade de Rabat. C'est fini entre Francis Kimanzi et le Kenya. Dans un communiqué, la Fédération kenyane de football a annoncé le départ de son sélectionneur 48 heures après la réélection du président Nick Mwendawa. Francis Kimanzi a dirigé 10 matchs à la tête du Kenya avec à la clé 3 matchs nuls, 5 victoires et 2 défaites. Le Kenya fera face en novembre aux Comores en double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Dans leurs 2 précédents matchs, les RMB Stars ont fait match nul contre l'Égypte et le Togo et comptent donc 2 points. En Europe, le Paris Saint-Germain du Sénégalais Idrissa Gana Gueye, finaliste sortant de la Ligue des Champions, a revécu hier une soirée noire contre Manchester United qui s'est imposée en toute fin de match 2-1. Cette défaite place les Parisiens dans une position inconfortable avant 2 déplacements en 2 semaines chez les Turcs de Başakşehir et en Allemagne chez le RB Leipzig. La Lazio Rome est sortie victorieuse de sa confrontation avec le Borussia Dortmund 3-1. 2 mois après le traumatisme de l'élimination 8-2 contre le Bayern Munich lors de la dernière édition, le FC Barcelone a réussi son grand retour en surclassant Ferencváros 5-1. Entre autres résultats, 1-1 entre Rennes et Krasnodar, 2-0 pour la Juventus Turin devant le Dynamo Kiev, 0-0 entre Chelsea et le FC Séville.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sibulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur des États-Unis, Richard Bell, s'est exprimé sur le scrutin du 31 octobre, entre autres sujets abordés dans une interview accordée à Koita Makalu, rédacteur en chef de la radio Albayan, notre station partenaire à Abidjan. L'ambassadeur Bell.
Les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont une amitié qui est profonde et chaleureuse. Et chaque fois que je me déplace, je suis touché par la chaleur de l'accueil de la part des Ivoiriens.
Alors justement, avant d'aborder le thème d'actualité, l'élection présidentielle, la Côte d'Ivoire a été élue dans le MCC, Millennium Challenge Corporation. Nous sommes à quel niveau de cette coopération en termes déjà d'investissement fait par le contribuable américain ici en Côte d'Ivoire?
Merci de mentionner l'accord très important avec le MCC, qui dans le cas de la Côte d'Ivoire s'élève à 524,7 millions de dollars sur 5 ans. Nous sommes au début de la deuxième année. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un investissement dans les deux domaines du transport routier et de l'éducation. Mais pour moi, le plus significatif, c'est l'éligibilité. Parce que en remplissant les critères d'éligibilité, un pays se rend plus attractif aux investisseurs en général.
Qu'est-ce que les États-Unis ont apporté à la Côte d'Ivoire et qu'est-ce que les États-Unis sont en train de faire pour que ces élections-là soient crédibles et puis acceptées de tous?
Nous appuyons, en compagnie avec d'autres partenaires, la tenue d'une élection libre, équitable, apaisée, suffisamment transparente, pour que même ceux qui seront déçus par le résultat l'acceptent comme légitime. Nous avons un programme de l'USAID de plus de 11 millions de dollars qui travaille avec la société civile dans plusieurs localités, avec les différents partis politiques réunis ensemble, avec les leaders spirituels et autres, avec un accent sur la participation des femmes, des jeunes adultes.
La toute dernière question, la crainte des Ivoiriens, c'est éventuellement des crises dans un point fini, notamment les appels à la haine, au tribalisme. Est-ce que vous apportez vos expertises à tous ces ONG pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux et dans les médias?
Il se fait que j'étais à Boaké il y a quelques semaines et j'ai eu le plaisir de lancer, en compagnie de M. le maire de Boaké, une campagne de sensibilisation contre les discours de haine et de division qui regroupait des représentants du RHDP, du PDCI, du FPI et du GPS, tous ensemble. C'est le lieu de rappeler qu'il faut deux pour faire la paix, mais qu'il suffit d'un seul pour faire la guerre. Le meilleur moyen de donner confiance aux autres, c'est d'être digne de leur confiance soi-même, pour que eux, ils acceptent de jouer le jeu confiant que vous aussi, vous jouerez le jeu. Évitez tout recours à la violence ou à la provocation. Respectez le droit de l'autre de ne pas être d'accord avec vous, être unis pour le bien-être de ce pays qui a beaucoup de potentialités. Les choses pourraient se passer très bien dans ce pays si cette année électorale se passe bien.
Merci beaucoup, Excellence Echabé.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'ambassadeur Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire toujours, l'opposition laisse planer le doute sur un boycott de la présidentielle du 31 octobre. Le 15 octobre, elle a appelé ses militants à une campagne de désobéissance civile et à boycotter les opérations électorales. Depuis plusieurs jours, des manifestations parfois violentes ont eu lieu dans plusieurs localités. L'opposition conteste notamment la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat. Youssoufou Joseph Bamba est secrétaire exécutif chargé des relations extérieures du PDCI, un parti d'opposition. Cet ancien représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies est venu plaider la cause de l'opposition ivoirienne auprès de la communauté internationale. Au micro de Bagassikoura, Youssoufou Joseph Bamba.
Je suis ici dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, de plaidoirie, afin que la communauté internationale se penche sur la situation de crise sérieuse, explosive, qui a cours en ce moment en Côte d'Ivoire. Et l'objectif, c'est que la communauté internationale, notamment les Nations Unies, se saisissent de cette question et inscrivent la question ivoirienne sans délai à l'ordre du jour du Conseil de sécurité.
Alors, les élections, c'est dans quelques 10 jours. Est-ce que le PDCI-RDA va y participer?
Bien, vous êtes un journaliste, vous suivez l'actualité. Le PDCI-RDA, à l'unisson avec tous les partis d'opposition, ont décidé de ne pas participer aux élections dans les conditions actuelles. D'abord, le candidat Alassane Ouattara est un candidat illégal. Sa candidature est inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle. Elle doit être retirée. Ensuite, la commission électorale indépendante, elle n'est pas du tout indépendante, elle est impartiale, elle est déséquilibrée et elle n'est pas consensuelle. Ensuite, la liste électorale est incestée, elle n'est pas fiable et en plus le Conseil constitutionnel qui doit en dernier ressort confirmer les résultats est un Conseil constitutionnel qui est parfu parce qu'il ne dit pas le droit. Les conditions et sans compter l'exclusion des candidats du poids et toutes ces raisons font que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'élections crédibles, libres, inclusives, apaisées et transparentes.
Mais Bédier n'a pas retiré son nom de la liste des candidats.
Mais je ne vois pas le sens de votre question. Le président Bédier est candidat. Sa candidature a été validée. Notre préoccupation, c'est l'intégrité du processus électoral.
Alors, il y avait une mission de la CEDEAO à Abidjan qui dit que les citoyens qui bloquent les rues et qui se saisissent du matériel électoral commettent des actes criminels et que nous sommes en démocratie, il faut participer aux élections.
Bien, je voudrais d'abord rappeler la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande à ce que l'État de Côte d'Ivoire prenne les mesures de telle sorte que les partis d'opposition à la société civile eux-mêmes organisent leur. La désignation des personnes qui doivent siéger au sein de la commission électorale. Et de la même manière aussi au sein des commissions électorales locales. Et l'arrêt dit que tant que cette disposition n'a pas été prise en compte par l'État de Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection. Ouais. Nous sommes étonnés que la CEDEAO n'aborde pas cette question.
Youssoufou Joseph Bamba, ex-représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En République démocratique du Congo, le groupe État islamique a revendiqué une nouvelle attaque après un moment d'accalmie. Le groupe terroriste opère dans le pays à travers les rebelles ADF qui ont attaqué ce mardi la prison de Kangbayi, provoquant l'évasion de près de 1300 détenus. Eddy Issango a joint à Goma l'auteur de plusieurs ouvrages sur le groupe État islamique en RDC, notre confrère Nikèze Kibel-Bel-Oka, éditeur du journal Les Coulisses.
Un groupe d'assaillants a attaqué la prison de Kangbayi à Beni. Il a libéré tous les détenus. Ils étaient au nombre de 1447. Il en était resté 110, dont 68 militaires. Mais à l'heure où nous parlons, l'auditorat a récupéré presque 160 détenus. Les faits se sont passés le matin, aux petites heures du matin. Selon des sources recoupées, un groupe est venu. Il a ouvert la prison, il a défoncé la prison et a fait libérer tous les prisonniers, parmi lesquels les ADF.
L'État islamique a revendiqué cette attaque, mais il y avait quand même un peu d'incertitude au début. Qu'est-ce qui prouve que c'est bien les groupes État islamique?
Oui, il est vrai que l'État islamique a revendiqué. Ce qui peut prouver, ce qui peut accréditer cela, c'est que d'abord il y avait beaucoup de leurs combattants, dont des adeptes, dans la prison. Mais aussi depuis 2017-2018, la RDC, notamment les ADF, font partie de ce qu'on appelle la province Afrique centrale de l'État islamique, avec le Mozambique et depuis le 1er octobre, la Tanzanie.
L'armée congolaise a montré des images sur le terrain disant qu'elle avait démantelé le quartier général du groupe État islamique en RDC. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui la persistance d'attaques et même en fait, les changements, ce qui semble apparaître comme un changement des tactiques?
Nous sommes dans une guerre asymétrique où l'ennemi évite le corps à corps, l'ennemi évite l'affrontement direct avec la force loyaliste. L'ennemi est très mobile, il opère en petits groupes, il a développé son système de renseignement au point qu'il connaît presque toutes les positions des FARDC et les évite. Ce qui montre effectivement, ce qui donne toutes ces attaques surprises contre l'armée et surtout contre la population.
Notre confrère Nikèze Kibel-Bel-Oka était joint à Goma, dans le Nord Kivu, en RDC. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.